franceinter.fr. La revue de presse de Frédéric Pommier.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre.
Bonjour.
Et bonjour à tous. Et si c'était la palme? Et si c'était la palme d'or dimanche prochain au Festival de Cannes? Il y a 4 films français en compétition. Il y a Le Redoutable de Michel Hazanavicius. Il y a L'Amant double de François Ozon. Rodin de Jacques Doyon. Et 120 battements par minute de Robin Campillo. 120 battements par minute. C'est hier que ce film a été présenté. Un film qui raconte l'histoire de l'association de lutte que le SIDA Act Up. Et ce dimanche, la presse est tout bonnement dithyrambique. Œuvre choc qui a réveillé le festival, selon Pierre Vavasseur, dans les colonnes du Parisien. Il écrit que ce film a laissé la salle chaos. Une œuvre bouleversante abonde le journal du dimanche, dans lequel Barbara Théat décrit par le menu sa matinée de festivalière. On se lève un samedi matin très tôt pour la projection presse de 8h30. On râle un peu de ne pas encore avoir vu le film qui nous emportera les yeux et le cœur. On réinvente le festival avec des confrères sous le soleil. Puis le noir se fait dans le grand théâtre Lumière et soudain tout bascule. Sur l'écran, poursuit-elle, on suit les destins d'une poignée de militants d'ACT UP dans le Paris des années 1990, entre les débats enflammés aux réunions hebdomadaires et les actions musclées contre les labos pharmaceutiques et contre le gouvernement de Mitterrand, la caméra de Robin Campillo se focalise peu à peu sur un amour naissant. 120 battements par minute quittent alors le champ politique pour aller progressivement sur le terrain des sentiments. Et l'on suit la métamorphose de Sean, un jeune homosexuel en lutte. On voit la maladie voler l'espoir. On voit le corps et le moral se désagréger. On voit la mort qui progressivement remplace la vie. Et Nathan, son amant, devenir son soignant. En quelques mots, en quelques phrases, la critique du JDD nous livre la beauté du film, crue, sans jamais être vulgaire. Les scènes puissantes disent l'envie de faire l'amour pour mieux se sentir exister. C'est un cinéma magnifique, juste dans ses images et dans ses émotions. Et les larmes montent, écrit-elle. On repense à la vie d'Adèle, à Police et au fils de Saul. On se dit qu'aujourd'hui, oui, on a vu une palme d'or. 120 battements par minute de Robin Campillo, tout premier grand choc, semble-t-il, du Festival de la Croisette.
Et en France, si je ne m'abuse, ça fait quoi, 35 ans que l'homosexualité a été dépénalisée?
C'était en août 1982, sur une proposition du ministre de la Justice Robert Badinter, mais ce n'est que 10 ans plus tard, en 1991, qu'elle sera retirée de la liste des maladies mentales de l'Organisation Mondiale de la Santé. Cela étant, l'homosexualité est encore considérée comme un crime dans près d'un pays sur deux dans le monde, notamment au Bangladesh, où, comme nous l'apprend Julien Bouissou dans Le Monde, la police vient d'arrêter 27 homosexuels. 27 jeunes hommes arrêtés à l'aube vendredi dans un centre communautaire de la capitale Dhaka. Ils ont donc été jetés en prison. Comme avant eux des opposants politiques et des défenseurs des droits de l'homme, le régime du Bangladesh a du mal. C'est le moins qu'on puisse dire avec la notion de liberté, sachant que c'est en vertu d'une loi héritée de l'Empire britannique que les relations sexuelles entre personnes du même sexe sont illégales dans le pays. Une loi qui jusqu'alors était assez peu appliquée, mais l'ambiance est dorénavant à la répression générale, y compris sur le plan moral. Les homosexuels bangladais doivent donc désormais vivre avec la crainte d'être emprisonnés. Ils subissent le harcèlement policier tout en étant menacé de mort par les islamistes radicaux. En avril l'an dernier, deux militants d'un mouvement LGBT avaient été tués à coups de machette dans leur appartement par un commando se revendiquant de la branche bangladaise d'Al-Qaïda. Depuis, les homosexuels ont décidé de se cacher et ils ont décidé de se taire, voire de fuir à l'étranger.
Les homosexuels en danger au Bangladesh et puis les journalistes en danger au Mexique.
C'est à lire dans le JDD depuis l'année 2000. 105 journalistes ont été tués au Mexique, classés par Reporters sans frontières comme le troisième pays le plus dangereux au monde pour la profession. Un phénomène qui ne régresse pas malgré les promesses du président mexicain de renforcer les mécanismes de protection de la presse. Cette semaine encore, c'est un journaliste spécialisé dans les enquêtes sur le narcotrafic qui a été assassiné. Quant aux agressions à l'encontre des reporters, violences physiques, menaces, intimidations, elles ont quasiment doublé en 7 ans. Tout aussi inquiétant, dans plus de la moitié des cas, il apparaît que ces agressions ont été commanditées par des fonctionnaires au Mexique. Cela dit, ce n'est pas ce sujet-là qui fait la une de l'hebdomadaire. Non, c'est un sujet politique, la politique française, avec une longue interview du tout nouveau Premier ministre.
Son visage en photo et ce titre, la méthode Philippe.
Édouard Philippe détaille les plans de son gouvernement, les grandes lignes de sa méthode de travail. Ces dernières tiennent en quatre mots. La collégialité, l'efficacité, la loyauté et l'exemplarité. Trois journalistes pour mener l'entretien, lequel, Alirana Kabana, fut quelque peu tendu. Du moins, le Premier ministre était un peu tendu, la bouche sèche, des mains qui s'accrochent l'une à l'autre. Sauf quand elles s'en vont sous la table remonter des chaussettes qui n'en avaient nul besoin. Dans cette interview, il revient notamment sur le dossier du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Il est urgent, dit-il, de faire baisser le niveau de tension. Raison pour laquelle un médiateur sera nommé, et ce pour une période de 6 mois. Mais aujourd'hui, si l'on en croit le chef du gouvernement, toutes les options sont sur la table. Maintenir le projet donc, ou bien l'abandonner. En revanche, concernant l'impôt à la source, là, visiblement, le choix est plutôt de l'abandonner, ce projet. L'application de la mesure, en tout cas, pourrait être reportée. Édouard Philippe évoque aussi les relations du nouveau pouvoir avec les médias. Il assume, je cite, « la volonté d'organiser la communication afin de ne pas nourrir un bavardage permanent. Dans la phase préparatoire d'un projet, personne n'a vocation à exposer des positions qui ne sont pas arbitrées », lance-t-il en guise de mise en garde à son équipe de ministres. À propos des législatives, il assure par ailleurs qu'il fera campagne pour les candidats de La République En Marche, le mouvement d'Emmanuel Macron, y compris quand ils seront opposés à un candidat présenté par Les Républicains, le parti dont il est issu. Il juge passionnant de tenter avec le chef de l'État le dépassement des clivages politiques traditionnels. Cela suscite un espoir et un enthousiasme manifeste qui nous oblige, explique-t-il. Et je dis à tous, N'ayez pas peur, comme Jean-Paul II en son temps, n'ayez pas peur, nous avons l'occasion de dépasser quelque chose qui est bloqué, le système partisan français était en une impasse, c'était inextricable, le président de la République a tranché le nœud gordien. Concernant l'audit des finances publiques, promis par Emmanuel Macron, le Premier ministre annonce qu'il sera lancé dans les prochains jours. Quant à la réforme du Code du travail, il estime que c'est un dossier majeur, mais que cette réforme donnera lieu à une discussion avec les partenaires sociaux, tout comme avec le Parlement, ajoutant cependant qu'il faudra ensuite aller vite pour la mettre en œuvre, d'où le recours aux ordonnances, un recours auquel s'oppose d'ores et déjà Philippe Martinez, le leader de la CGT. Il le dit dans l'hebdomadaire, les ordonnances sont irrecevables. C'est mardi que le Premier ministre, Édouard Philippe, recevra les syndicats afin de discuter avec eux de cette réforme.
Au rayon politique, on apprend aussi dans le JDD que deux femmes ont cru jusqu'au bout entrer dans le gouvernement.
Anne-Marie Idrac et Nathalie Kosciusko-Morizet, l'ex-présidente de la SNCF, se voyaient bien à Bercy. Quant à NKM, elle s'est battue, nous dit-on, pour obtenir la défense, le ministère de la Défense, avant d'espérer, comprenant que la défense ne serait pas pour elle, avant d'espérer le ministère de l'Éducation nationale. Et finalement, ce n'a pas été pour elle non plus. On apprend aussi que l'omniprésent porte-parole de la campagne d'Emmanuel Macron, Benjamin Griveaux, devrait s'emparer du parti La République En Marche. Cela dit, son ambition serait ailleurs. Il voudrait conquérir la mairie de Paris en 2020. C'est pour ça qu'Anne Hidalgo nous déteste, témoigne un cadre d'En Marche. Enfin, un mot du magazine L'Équipe, avec une recette intéressante à la page 65. Demandez à votre boucher d'aplatir les escalopes de veau. Installez-les à plat, déposez sur chacune une tranche de jambon et recouvrez ensuite avec la tranche de fromage. Refermez-les en pliant les tranches en deux. Coupez ce qui dépasse de manière à obtenir un cordon bleu très net. Ne tirez pas sur le cordon, c'est le titre du papier. Et on dira que le magazine L'Équipe peut recevoir cette semaine la palme de la recette la plus opportuniste. Bon appétit.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.
La météo, avec la carte week-end Hop Air France, des réductions sur plus de 60 lignes en France. Rendez-vous sur airfrance.fr ou hop.com. Hop, vous y êtes.
À Météo France, Jean-Michel Golinski, une journée quasiment estivale.
Exactement, avec du soleil pour tout le monde aujourd'hui, sous un ciel simplement un peu plus voilé sur les régions de la moitié ouest. Et pour ne rien gâcher, des températures plus élevées qu'hier, comptées sur une vingtaine de degrés près de la Manche, 22 sur les Hauts-de-France et dans le nord-est, 23 à Paris, Nevers et Rennes, 24 du Val-de-Loire aux Charentes et sur le Dauphiné, 25 à 26 sur les régions méridionales, avec des pointes à 27-28 sur le Pays Basque, la Drôme et l'Ardèche.